Divergence FM, l'interview.
Alors aujourd'hui, nous recevons Kenes Mossan qui va donner une conférence dans le cadre des conférences que dont nous enregistrons le contenu très régulièrement sur Divergence et qui est ensuite diffusée sur nos ondes. Alors cette conférence va avoir comme sujet quelque chose qui pourrait faire sourire certains et qui doit nous ramener à quelque chose de très sérieux. Alors, on évoquait, pour préparer cette interview, les comics américains qui essayaient de voir à travers les vêtements. Alors, c'est une forme un petit peu de science-fiction. Et Kenes Mossan, vous me disiez que tout ça, n'était plus du tout de la science-fiction.
Effectivement, oui, c'est plus du tout de la science-fiction. Donc, dans ces comics, on proposait pour un modique somme de 1 $... de l'époque, d'avoir des lunettes qui projettent des rayons X pour voir à travers les vêtements, parce que la technologie de la radiographie se développait à l'époque. Et nous, dans les laboratoires de recherche fondamentale de l'Université de Montpellier et de l'ensemble des laboratoires de recherche mondiaux, on développe un autre rayonnement qui s'appelle le rayon T ou rayonnement terahertz, qui a cette particularité, en fait, de passer à travers les vêtements, les matières plastiques, les cartons, etc., etc. Mais par contre, qui est fortement réfléchi par les métaux et fortement absorbé par l'eau. Donc grâce à un tel rayonnement, on arrive, et ça je le montrerai jeudi soir à la conférence, on a des images de corps humain à travers les vêtements et on peut repérer, en termes de sécurité, par exemple, des couteaux dissimulés ou des armes dissimulées. Et ça, c'est déjà utilisé, en fait, dans les aéroports aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle les body scanners. Donc, quand vous passez aux États-Unis, vous avez déjà des sortes de portiques qui vous scannent. Mmh. Et en fait, vous ne voyez rien parce que, pour des raisons déontologiques, les autorités américaines ont demandé à ce qu'on ne voit pas les images. Il y a juste un OK ou pas OK, en gros. Mais ils arrivent à reconstruire complètement le corps humain sans ses vêtements parce que tout ce rayonnement, pour ce rayonnement, en fait, les vêtements sont complètement transparents. Et on peut voir à travers les vêtements, on peut voir à travers les colis, pour voir ce qu'il y a dans les colis sans les livrer, etc. Donc non, c'est plus la science-fiction et on le fait ici, à l'Université de Montpellier.
Et alors vous me disiez que l'Université de Montpellier est en pointe sur ce sujet.
Pour vous donner un chiffre, sur la production nationale de publications scientifiques reliées à ce domaine de recherche, environ 20% des publications scientifiques sont produites par l'Université de Montpellier. Alors que l'Université de Montpellier possède 5% des effectifs d'enseignants-chercheurs rattachés à ce qu'on appelle les sections correspondantes. Donc on produit énormément. C'est 1/5 de la production nationale est produite par Montpellier. Et on fait partie des universités qui ont initié cette recherche jusqu'à une partie de ces recherches fondamentales qui ont débouché à une start-up qui est dans les locaux toujours de l'Université de Montpellier. Et qui vend au niveau maintenant en termes de business, qui vend vraiment des dispositifs pour l'industrie issus des recherches de l'université.
Alors, ce rayon dont vous parlez, comment ça a émergé? Comment c'est venu? Parce que bon, vous en évoquez le rayon X, là on a un rayon d'une autre nature. Comment ça surgit ça dans le champ de la recherche?
De la curiosité des chercheurs. À la base, c'est simplement le rayonnement terahertz, c'est quoi? C'est du rayonnement électromagnétique. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le rayonnement électromagnétique?
Oui.
Simplement, pour vos auditeurs, quand ils branchent la radio, ils sélectionnent 93,9 MHz. Mmh. Et en fait, ils choisissent une onde électromagnétique d'une certaine fréquence. Donc, l'électronique a pour nature physique, d'un point de vue physique fondamental, une onde électromagnétique. Donc, votre smartphone, le Wi-Fi, le micro-ondes, tout ça, c'est des ondes électromagnétiques. Mais de l'autre versant, de l'autre côté, si on a des ondes qui oscillent très vite, c'est l'optique. C'est-à-dire, je vous vois avec de la lumière, et cette lumière a la même nature physique. C'est également des ondes électromagnétiques. Et le terahertz, c'est finalement la frontière entre les deux. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est titiller les frontières. C'est comprendre ce qui se passe à l'intermédiaire. Pourquoi? Parce qu'à la frontière, on a un comportement qui est à la fois de l'optique et à la fois électronique. Ce qu'on sait, c'est que quand je branche mon micro-ondes, je branche un câble électrique. C'est-à-dire, je branche du métal. Mmh. Alors que quand je veux me voir dans le miroir, au contraire, j'utilise un miroir. J'utilise pas du tout les mêmes objets pour manipuler la lumière ou l'électronique. Et ce qui est fascinant dans ce domaine, c'est que justement, il arrive à avoir des propriétés qui sont des deux bords. Ce qui en fait des choses fascinantes. Donc notamment, c'est de l'électronique qui a la propriété de traverser le matériau, mais on peut faire des images. Et c'est ça qui devient très intéressant. Et d'un point de vue fondamental, c'est beaucoup plus... ça a beaucoup intéressé les chercheurs de physique fondamentale parce que ça fait appel à ce qu'on appelle des excitations de la matière, donc des mouvements, on va dire, collectifs de la matière qui donnent lieu à des problématiques très fondamentales. Et nous, ça nous intéresse parce qu'il se passe des choses au niveau microscopique très fondamental pour mieux comprendre le monde. Et ça va de la supraconductivité au développement des dispositifs quantiques pour aller vers l'électronique de demain et l'ordinateur de demain en termes de performance. Donc tout ça fait que les chercheurs se sont intéressés à ce domaine depuis très longtemps. Et c'est les développements technologiques en fait, de la physique des lasers ou de ce qu'on appelle des hyperfréquences électroniques. C'est-à-dire, il y a eu deux stratégies. Soit les gens de l'optique ont réussi à diminuer la fréquence pour atteindre le terahertz, soit les gens de l'électronique ont réussi à monter et à s'en rapprocher du terahertz. Et on a commencé à se rejoindre et à parler ensemble. Et c'est là que s'est développé le sujet. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de choses intéressantes à faire avec sérieusement. Donc pendant longtemps, c'était un sujet d'étude. Et désormais, on est passé du sujet d'étude, du développement de sources de détecteurs, à l'utilisation pour faire des choses à la fois en physique quantique, mais aussi dans les problématiques de biologie, d'agronomie, d'études de biochimie ou de physico-chimie qui ouvrent plein de champs de recherche que je présenterai donc jeudi soir.
Alors en fait, c'est une sorte d'application. Il y a de nombreuses applications. Alors, vous citiez le cas de la détection des dangers terroristes, etc. Exactement. Mais on imagine qu'il y a en médecine, il va y avoir énormément d'applications également. Un petit peu comme on a eu le scanner, l'IRM, etc. On aura là des moyens d'investigation du vivant beaucoup plus pointus.
Tout à fait. Alors, c'est toujours compliqué de prédire l'avenir parce qu'on a quand même les verrous technologiques à faire sauter. Et on a également les problèmes de coûts, mais on sait que dans le domaine médical, suffit de se renseigner sur le coût d'une IRM, par exemple. Le coût est un problème secondaire, entre guillemets. Je suis sûr que les directeurs de CHU ne seraient pas d'accord avec moi. Oui, mais il faut comprendre que le marché santé, que ce soit le pharmaceutique ou le médical, c'est pas le coût de nos instruments actuellement sur le marché, c'est quelques centaines de milliers d'euros. Ce n'est pas du tout le coût, par exemple, d'une IRM. Mmh. Par contre, en termes de performance, on est encore au balbutiement. Et on est encore à l'état au stade de l'étude clinique, si vous voulez. Donc, ce qu'on sait faire, par exemple, maintenant, c'est on prend des tumeurs. Donc, on prend des rats avec des tumeurs. Ça, on sait faire. En gros, on va provoquer des tumeurs sur des rats de laboratoire. Et on arrive à montrer qu'on peut détecter très facilement, plus facilement, entre guillemets, les cellules cancéreuses. Donc ça, en termes d'imagerie, il y a beaucoup de travaux de recherche qui cherchent non pas à détecter une tumeur sur des coupes histologiques, où on sait déjà le faire avec des méthodes traditionnelles, mais arriver à le détecter plus tôt. D'accord. C'est-à-dire essayer de voir si justement ces techniques ne permettent pas d'anticiper le développement de cellules cancéreuses pour prendre en charge le patient plus tôt et justement prévenir plus tôt les traitements, avoir des traitements plus lourds, etc. Il y a d'autres sujets, par exemple, d'intérêt, c'est les problèmes d'humidité. Le rayonnement T, donc terahertz, est très sensible à l'humidité, il est très absorbé par l'humidité. Donc ça a des applications en agronomie, par exemple, pour étudier ce qu'on appelle le stress hydrique. Actuellement, le contexte, évidemment, c'est le réchauffement climatique. Oui. C'est comment se comportent les plantes, en gros, quand il y a un cycle de réchauffement climatique ou quand elles sont soumises à des conditions plus dures en termes de stress hydrique, c'est-à-dire qu'on les alimente moins en eau. Et ça, on peut sonder, en imagerie encore une fois, la répartition de l'eau dans la plante, et ça, on le fait ici. Je présenterai des images. Dans le laboratoire, on arrive à faire la cartographie de la densité de l'humidité de l'eau dans une plante. Et ça, c'est une application médicale, c'est le diabète. Le diabète, quand vous avez un diabète déclaré, l'hyperglycémie provoque des problèmes de vascularisation. Et ça, notamment, c'est le problème du pied du diabétique. Et ce qu'a montré une université américaine, c'est qu'en imageant la plante des pieds par le rayonnement T, on arrive à mesurer des taux d'humidité différents suivant que le patient ait un diabète déclaré ou non. Et on arrive à faire des catégories de population diabétique ou non, simplement en faisant rapidement un scan orienté du pied. Ce qui évite en termes de dépistage chronique, des prélèvements sanguins, etc. Donc c'est plus en termes d'anticipation de maladies chroniques que ce rayonnement va trouver son application. C'est aussi des applications en dentisterie. Par exemple, les dents, comme c'est très sec, on n'a pas ce problème d'eau et on arrive à anticiper des traces de cavités. Donc prévenir des caries ou des fissures, des choses comme ça. Donc il y a tout un tas d'applications potentielles très très vastes. Mais on ne sait pas encore où on va. C'est-à-dire qu'on est vraiment au stade du couteau suisse. Ça peut servir à plein de choses, mais on ne sait pas quelle est ce qu'on appelle la killing application. C'est-à-dire l'application vraiment qui va trouver un marché où le rayon T va trouver sa place. Mmh. Et il faut être ouvert là-dessus. C'est de l'expérience passée, on sait que C'est souvent les problématiques de défense, sécurité qui donnent de l'argent développer des recherches. ça, on le sait. Et après, les applications civiles ou médicales viennent. Et c'est une fois que la technologie sera particulièrement adaptée que là, elle va vraiment s'installer. Et là, pour le moment, on est au stade très fascinant où justement, on a plein d'idées et ça va dans tous les sens. Et on a plein de potentialités. C'est là que ça devient très, très intéressant. Justement.
Et donc, ce sont toutes ces potentialités que vous allez exposer lors de cette conférence.
Alors, je n'aurai pas le temps de toutes les exposer. je vais essayer de présenter en trois temps. C'est-à-dire, dans un temps, premier temps très général, présenter justement comment on arrive à obtenir de l'information à partir de la lumière sur le monde microscopique. Ce sera très général. Après, je présenterai justement ce rayonnement sur ces applications plus imagerie et quelles sont ses propriétés. Et enfin, j'essaierai de balayer quelques applications de tous les jours, un peu sous forme de catalogue, pour vous montrer la potentialité de ce rayonnement. Mais je ne pourrais pas être exhaustif parce que justement...
Il y en a trop.
Exactement. Deux heures ne suffisent pas, malheureusement.
Le champ est trop vaste.
Exactement.
Très bien. Eh bien, écoutez, il nous reste à inciter vivement à nos auditeurs à se rendre jeudi 22 mars, donc à 18h, à l'Institut de Botanique, amphithéâtre Charles Flao, rue Auguste Broussonnet à Montpellier, pour aller vous écouter et rêver à toutes ces potentialités nouvelles qui s'offrent à nous. Merci beaucoup.
Merci.